Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
La technologie,
les jeux vidéo,
les films et séries, l'espace infini,
l'entrepreneuriat.
Tu mixes ça ensemble pis ça donne les technopreneurs.
Chers auditeurs de CJMT, j'espère que vous allez bien parce que c'est les technopreneurs qui commencent dès maintenant et ça jusqu'à 15h cet après-midi. Donc une émission remplie de technologie, ça le dit, technopreneurs, puis aussi avec une petite tranche entrepreneuriale. Comme à chaque semaine, on reçoit un entrepreneur qui vient de présenter sa business, son projet. Et là, cette semaine, on fait place à Samuel Labbé, l'animateur du show des Trois Flots, qui a lancé son projet entrepreneurial. Donc, on va l'avoir un petit peu plus tard dans l'émission. Et puis, pour ceux qui ne connaissent pas les technopreneurs, on est des tripeux de technologie, de jeux vidéo, de films, de séries télé. On jase de tout ce qui touche à la technologie. Donc, aujourd'hui, on va vous parler d'intelligence artificielle. On va vous parler de téléphones, de nouveaux téléphones mobiles de Samsung. On va parler aussi des nouveaux MacBook Pro qui ont annoncé aussi du côté d'Apple. Donc, une belle émission, bien chargée. À chaque semaine aussi, je vous fais tout le temps un petit topo sur les jeux vidéo avec ma chronique Jimbo Tech. Et cette belle émission-là, les technopreneurs, j'anime ça avec des chroniqueurs et aussi avec notre metteur en onde, monsieur J.S. Corriveau.
Hey, bon après-midi. La rive sud, la rive nord, tout le monde.
Tout le monde. On vous aime. On vous apprécie. Merci
gros
d'être là.
Yes.
Et merci toi aussi d'être là.
Mais oui,
présent,
mais oui.
Comme à chaque semaine.
On vient se dégourdir la tête, les esprits. On vient se s'abreuver de connaissances sur les jeux vidéo, sur le cinéma, les séries. Moi, je trouve ça le fun. Parce que je suis comme un peu le noob là, de tout ce gros crunch-là, puis
ouais.
Je m'éduque beaucoup aux technopreneurs et j'ai du gros fun avec vous autres.
Bon, merci d'être là. On va aller jaser aussi à notre zélé, monsieur Guillaume Bouchard. Salut, Guillaume.
Hello, hello.
Comment il va?
Je vais bien, je vais bien.
Excellent, merci d'être là.
Oui.
Et puis, ta chronique très bientôt quand même, de quoi que tu jases aujourd'hui?
Plein de choses, en fait, parce que il y a plein de choses qui se passent, puis il n'y a pas beaucoup de choses qui se passent.
Ouais, dans le monde du cinéma et des séries télé, ouais.
Ouais, en effet. Puis j'ai écouté Fast X qui est disponible sur Prime Video. Je vous en parle tout tantôt. Je suis un petit peu en chien.
Ouais, ça me surprend que tu aies écouté un film comme ça, là, tout de suite en partant.
Non, mais je m'étais tapé toutes les autres, dans le fond, au printemps, parce que je voulais aller le voir. Finalement, ça n'avait pas donné de le voir au cinéma. Puis là, il est disponible maintenant sur Prime Video. Fait que je vous en parle parce que ça m'a mis en tabar.
OK. Écoute, une petite critique. Puis moi aussi, dans les jeux vidéo, je vais vous faire une critique. Mais je vous fais une critique d'un vieux jeu qui s'appelle The Evil Within. C'est le créateur de Resident Evil qui a sorti ça en 2014. Puis finalement, j'ai fait le tour du jeu.
T'as dépoussiéré, quand
même? Vraiment. Écoute, je l'avais acheté. Ça fait pour moi 6 ans que j'avais ça en format physique. J'avais jamais joué avec.
En plus, c'est vrai, toi, en format physique.
Oui, là, vraiment en format physique. Puis là, j'ai dit, ah ouais, let's let's go, je me lance dans cette belle aventure-là. Donc, je fais une critique de tout ça, mais je vous fais aussi un topo sur tout ce qui est actualité aussi dans le monde du jeu vidéo. Ben écoutez, chers auditeurs, c'est simple. Si vous voulez participer à l'émission, hein, nous, on est live, on est en direct. Donc, vous pouvez nous texter quand vous voulez au 418-903-5969. Et si vous voulez, ben, vous pouvez reprendre une partie du contenu sur notre chaîne, pas sur notre chaîne, mais sur notre page Facebook, Les Technopreneurs. Puis, si vous avez une question aussi, vous pouvez utiliser la page Facebook pour interagir avec nous. Et là-dessus, ben, on commence le show en actualité technologique. C'est assez spécial qu'est-ce qui se passe dans le monde de la musique en ce moment, parce que il y a plein de retours de légendes du rock qui reviennent.
Tu sais, mettons que Captain America, là, il revenait aujourd'hui, là.
Ouais.
Là, il dit, hey, c'est quoi l'affaire, là? J'ai une tonne des Beatles, puis un album des Rolling Stones.
Okay? Oui, oui, puis des nouvelles tonnes de U2 aussi, pourquoi pas? Tu sais, U2 qui est en tournée aussi à The Sphere, Las Vegas, puis ont sorti une nouvelle chanson aussi, Atomic City, récemment. Fait qu'il y a plein de retours de vieux Ben. Mais là, les Beatles, par exemple, tu sais, je pense que ça fait un petit bout que on s'attend pas à avoir de nouvelles chansons. Et c'est exactement ça qui s'est passé vendredi dernier, donc avec le retour d'une chanson, donc des Beatles, qui était, à vrai dire, moi, c'est vraiment des fois que je check des articles de journaux, qui étaient très attendus. Non, il n'y a personne qui attendait une toune des Beatles. Mais à vrai dire, il faut comprendre que les Beatles, je pense qu'on a commencé à en reparler récemment avec le documentaire de Peter Jackson, vraiment qui a fait un long là, documentaire, oui. Mais qu'on voit toute la création de l'album Let It Be en studio, mais vraiment restauré. Et ça, c'est incroyable, là, ce travail-là que Peter Jackson a réalisé.
Oui, en effet, puis c'est disponible sur Disney+, là, pour ceux qui sont intéressés à le voir. Là. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant. J'en avais
c'est
regardé.
Long.
Oui, j'en avais regardé une partie, pas tout, évidemment, parce que j'ai pas tant d'intérêt que ça au niveau des Beatles.
Ouais.
Mais le contenu est vraiment intéressant, parce qu'on a restauré plein de vieilles images qui avaient été prises lors de l'enregistrement, parce que ça a vraiment été filmé, mais ça n'a jamais été diffusé.
Non, c'est ça, exactement. Et là, le documentaire est à peu près d'une durée de 8 heures. Donc, il y a vraiment... Mais qu'est-ce qui est le fun, c'est que c'est pas coupé. On voit tout. L'intégralité est là. On voit réellement la vibe des Beatles. On la sent. Elle est là, imprenante. Puis en même temps, ben c'est le son aussi qui a été retouché.
Oui, oui, beaucoup, en effet.
Et ça a été vraiment la portion pratiquement la plus compliquée à réaliser.
Oui, mais c'est la technologie, justement, qui a été développée par Peter Jackson, qui a servi à cette nouvelle chanson-là qu'on entend présentement. Là,
exactement. Ben, la chanson, c'est Now and Then. On écoute un petit bout. Donc, faut comprendre que tout ça, ça découle de Yoko Ono. Eh oui, donc la femme de John, qui finalement avait 3 chansons, donc qui avait jamais été comme produit, masterisé, puis vraiment offerte en album quoi que ce soit. Mais ça a commencé avec l'anthologie des Beatles, qui était sortie en 1994, là, si ma mémoire est bonne, dans ces eaux-là. 95-96, donc on a sorti Free as a Bird et Real Love. Et puis, il y avait cette chanson-là, Now and Then aussi, qui faisait partie du lot, mais qui n'a pas été reprise parce que la qualité sonore était trop ordinaire. Donc, c'est vraiment juste un micro qui enregistrait John face à la chanson. Puis, le piano était vraiment par-dessus réellement la voix. Donc, c'était pas super intéressant. Mais grâce aux nouvelles technologies, et là, on utilise, et oui, chers auditeurs, de l'intelligence artificielle pour vraiment tout aller décortiquer la chanson. C'est vraiment aller juste chercher la portion sonore, d'exemple de la voix de John.
C'est ça, c'est qu'ils réussissent à isoler les fréquences dans
vraiment.
Le fond de sa voix par rapport à de l'information qui est envoyée dans la matrice de l'intelligence artificielle,
oui.
Qui est capable de cette façon-là d'extirper juste la voix et d'enlever le piano. C'est vraiment ça qui a permis à Peter Jackson de non seulement isoler la voix, mais de l'améliorer par la suite aussi.
Ben oui.
Ça donne, dans le fond...
Là, lui, en plus, son documentaire, c'était 8 heures de temps. Fait que, tu sais, t'imagines-tu 8 heures de décortiquage de bandes sonores pour juste avoir un peu la voix de Ringo, là, que ça soit correct, dans le cadrage de l'image, la façon qu'il a réalisé son documentaire, ça devait être hallucinant. Mais là, grâce à ces technologies-là, ça va beaucoup plus vite, c'est bien fait.
Peter Jackson, là, il est connu. Là. C'est un fan fini des Beatles.
Oui.
Il avait nommé, dans le fond, lors des tournages de ses films, les caméras, les sets de caméras qu'il avait, c'était le nom des Beatles.
Puis à vrai dire, puis dans le fond, pour ceux, souvent, c'est qu'on disait tout le temps, le cinquième Beatles. Mais ben, le cinquième Beatles, c'était le producteur George Martin, qui est vraiment, qui fait partie d'à peu près toute la production de tous les albums. Mais il faut comprendre que pour la dernière chanson, c'est Jill Martin. Donc, c'est le fils de George Martin qui est à la production de cette chanson-là. Et puis, ben évidemment, qu'on a voulu ajouter ben, des instruments là par-dessus tout ça. Donc, vraiment, on a repris donc de la batterie de Ringo. On a repris des trames de bass de M. Paul McCartney pour finalement remplir la chanson, donc pour la rendre plus intéressante. Ben, je vous dirais, sur YouTube, il y a un petit documentaire de 12-13 minutes là, qui vous explique tout le processus en arrière vraiment de... cette chanson-là qui revient, qui, selon, ben finalement, tout ce qui serait vraiment l'univers des Beatles, quoi que ce soit, la dernière chanson officielle à être diffusée. Puis c'est quand même incroyable, tu sais, de dire que maintenant, c'est avec les réseaux sociaux, YouTube, ben tu sais, dire que ces bands-là sont encore en vie grâce à ces plateformes-là.
C'est fou, hein, le nombre d'écoutes. Tu sais, sur toutes les plateformes confondues, allez voir, justement, là, les gros artistes, à quel point ils drainent, justement, du temps d'écoute. C'est malade. Tu sais, pour des vieux trucs, là, on s'entend. Là. Ben, vieux clip de Dire Straits, là, va ben, voir comment il y a de views. Il y en a à sacrement. Là,
money for ouais. nothing.
Ben oui, c'est ça, exactement.
Pour pas le nommer, là, exact.
Puis sa vie, vraiment, c'est, tu sais, on s'entend la prospérité, vraiment, de toute cette industrie musicale-là. Puis on voit beaucoup des vidéoclips aussi qui ressortent en format 4K, tu sais, mieux restauré que la version 1080. Qui avait été peut-être mis à peut-être 720 ou 480p, là, à voir peut-être en début de YouTube, qui est encore là avec plein de millions de views, mais en même temps, peut-être pas au rendez-vous en termes de qualité ou à quoi qu'on s'attend maintenant sur la chaîne. Mais chapeau à M. Peter Jackson, puis aussi, ben, la toune est quand même intéressante, donc c'est vraiment c'est une chanson de John Lennon, beaucoup plus, mais on s'entend que hein, Paul faisait ses chansons, John faisait ses chansons, on mélangeait tout ça, et puis aussi, ben, on a repris aussi la guitare isolée de M. George Harrison, qui avait été faite en 1995, fait que, tu sais...
C'est ça, parce qu'il est décédé, lui aussi.
C'est ça, donc on prend un enregistrement des années 70, avec la guitare de 1900 qui est enregistrée par George Harrison en 1995. On reprend ça avec de l'intelligence artificielle pour vraiment
des
s'assurer.
Des enregistrements récents.
Exactement. Tout ça mélangé, ça donne une toune récente. Et voilà. Donc, est disponible sur YouTube et sur toutes les plateformes musicales. Fait que voilà, on commence avec ça. On commence avec de la musique aujourd'hui au Technopreneur. Mais là, on tourne une page un peu, puis on s'en va jaser de télé avec le Zélé.
Guillaume Bouchard. Zélé de la télé.
Hey, salut les gars, formidable. En fait, j'ai une nouvelle série de J'écoute pas beaucoup de séries documentaires normalement, mais j'ai découvert sur Netflix.
Je veux vous rappeler aussi que ben vraiment l'émission Les Technopreneurs, vous pouvez écouter ça actuellement sur l'application de CJMD qui est disponible sur le Play Store et sur l'App Store. Allez-y, allez télécharger ça. On vous incite de nous encourager. Yes. Et là, le Zélé, tu nous as parlé d'un film tantôt, mais je te laisse avec ta chronique.
Oui, en fait, c'est ça. C'est que je là, vous allez me dire, pourquoi tu me parles de ce film-là? Il est sorti au printemps.
Oui, Fast X.
Exactement, ouais. Fast X, qui est maintenant disponible sur Prime Video. Donc, il était disponible jusqu'à là, quelques semaines en home premiere. Donc, il fallait payer 25$.
Mais ouais,
là,
ouais, ouais.
C'est vraiment fait partie du catalogue de Prime Video.
Mais tu me disais que ça avait été un succès vraiment... super succès pour Universal au box-office.
Ben, en fait,
Fast X.
Bien honnêtement, toutes les Fast and Furious ont été toujours là.
Ouais, dans les dernières années, absolument. Assez fort. Hein, assez toujours... fort, box-office. Oui. C'est du no-brainer un peu. Là.
Absolument. Là. Si on regarde, mettons, Fast X, là, au premier week-end, ça a fait 67 millions. Et dans le monde, on est rendu à 704. Donc, 704 millions, là.
C'est un film d'action. Là.
C'est un film, oui, en effet, c'est un film d'action, mais c'est souvent des films qui se vendent bien internationalement, ouais. Les films d'action aussi, mm-hmm. Parce que justement, les traductions sont plus faciles, il y a moins de dialogue un peu. Et évidemment, là, dans celui-ci, là, on dérougit pas là-dessus. Là.
Okay.
C'est action mur à mur, réalisé par Louis Leterrier, le français, dans le fond, on a Justin Lin qui était réalisateur lors des épisodes des films précédents, qui avait passé le flambeau pour cette fois-ci. Mais Justin Lin signe quand même le scénario, entre autres, du film. Là. Écoute, on retrouve encore Dominique Toretto et sa famille qui sont encore aux prises, là, cette fois-ci, avec, dans le fond, le fils vengeur du baron de la drogue, Hernan Reyes. Hernan Reyes, c'est lui, là, dans le fond, si je me trompe pas, c'est dans le coin du sixième ou peut-être septième film. Là. Dans le fond, c'était encore quand Paul Walker était dans la distribution. Alors, ils ont volé son argent. Puis là, c'est évidemment le très, 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 très bien connu, parce que là, je veux dire son nom, le très, très bien, le méchant, voyons donc, parce que là, je veux dire son nom, je l'ai oublié. Jason Momoa, excusez-moi.
Ah, okay,
alors, c'est
ouais.
Jason Momoa qui joue...
C'est le méchant.
Qui joue le méchant. Puis c'est vraiment... Moi, je trouve ça vraiment intéressant.
Le beau méchant.
Exactement, dire, oui. Là, pour les... Ben, de toute façon, tu sais, c'est un film, là, vraiment, où est-ce qu'il y a des beaux messieurs, des belles madames là-dedans. Tu sais, toujours la scène où est-ce qu'il arrive en char, puis il y a un party avec des pitounes en...
Classique.
Très légèrement. T'sais, dans tous les films, il y a ça, là. C'est, là-dessus, tu sais, ce que je trouve intéressant, puis en même temps un peu plate, c'est qu'on a toujours la même recette. Dans tous les films, on sent la même recette. Je dirais que celui-là a beaucoup plus d'action que les autres.
OK.
Puis d'action, encore là, invraisemblable. Parce que là, évidemment, on avait déjà fait là, deux chars qui tirent un coffre-fort, puis qui sort ça d'une bâtisse, puis qui se promènent avec. Hein? Mais là, on le fait, mais avec une bombe. Mais...
Puis l'hélicoptère qui est là en train de faire des tonneaux avec un train, là, c'est-tu là? C'est-tu là-dedans?
Ou ben, écoute, je vais vous laisser découvrir quand même le film. Parce que, tu sais.
Ça a l'air tellement exagéré. Non,
mais oui, mais ça reste que, tu sais, si tu t'embarques dans l'univers, mais c'est correct. C'est quand même bon, là. Tu sais, on a plein de catchphrases, là, tu sais, des petites classiques, là. Là, cette fois-ci, évidemment, ben là, tu sais, là, Dominique Toretto, un garçon maintenant. Puis là, ben, tu sais, on sait que son frère est impliqué, qui est joué par John Cena. Dans le fond, lutteur aussi, ben, ancien lutteur, mais aussi qui joue Peacekeeper dans la série HBO. Là, il est vraiment bon là-dedans en passant, si vous ne l'avez pas vu. Peacekeeper sur HBO, c'est dans l'univers de DC Comics. Là.
Ah, OK.
Mais si on revient à Fast X, là, on est rendu au 10e, là, en effet.
Ouais.
Si on tu sais, vite, là, si on retombe, le premier est sorti en 2001. Et puis, à la base, c'était pas Vin Diesel qui devait être le. Si on pourrait dire le héros, t'sais, c'était beaucoup plus, c'était Paul Walker, parce que Paul Walker, là-dedans, était le bon qui essaie de pogner le méchant, mais malgré que Vin Diesel était... les deux acteurs, en fait, étaient pas mal sur leur lancée au niveau de leur carrière en 2001. Et puis là, quand je dis que c'est ça, c'est que le deuxième, dans le fond, mettait pas en vedette Vin Diesel. C'était seulement, dans le fond, Paul Walker qui était là. C'est seulement à partir du troisième, ou est-ce qu'en fait, ils ont juste mis un caméo à la fin parce que le film, dans le fond, avait de très mauvaises perspectives au niveau du box-office. Donc, c'est à partir seulement de Fast and Furious, qui est sorti en 2009, là, le quatrième, dans le fond, que Vin Diesel est revenu dans le mix. Et après ça, évidemment, Fast 5, Fast 6, 7, et là, sont tous sortis là, quand même à peu près à 2 ans d'intervalle les uns des autres. Je vais vous parler du film principalement parce que je suis vraiment en tabaslac parce que le film n'a pas vraiment de fin. On met un gros cliffhanger. Un cliffhanger, là, sur ceux qui ne savent pas, c'est normalement un terme qu'on utilise à la télévision. Où est-ce qu'à la fin d'un épisode, mettons, un personnage, il va lui arriver quelque chose, mais ça coupe avant, puis on le voit juste dans l'épisode subséquent. Ça, là, c'est correct au niveau de la télévision. Mais au cinéma, c'est pas, tu sais, ça va être dans 2 ans, le prochain film, là. Je vais toujours attendre 2 ans pour savoir qu'est-ce qui se passe. Ça, là, ça m'écœure au plus haut point. Tu sais, un peu comme, je dirais, à un certain degré, malheureusement, comme le dernier Mission Impossible avec Tom Cruise, Dead Reckoning 1, puis là, le deuxième, là, ben, ça s'appelle même plus Dead Reckoning. Donc, ça sera même plus part 2. Là. Donc, ben à cause
on dirait que l'industrie est mélangée, vraiment. On fait-tu un film ou on fait une série télé?
Et présentement, je pense qu'il y a un gros problème au niveau de tout le milieu cinématographique et télévisuel. Puis, on le voit parce que, tu sais, c'est pas fini encore. Là. On a encore les acteurs qui sont pas capables de s'entendre avec les producteurs. Les producteurs vont s'apprêtent à faire un offre final. Mais un offre final, là, c'est sûr que les acteurs n'accepteront pas que ce soit un offre final. Et là, ça pourrait mettre fin complètement aux négociations pour la fin de 2023. Donc, ça veut dire qu'on recommencerait potentiellement les négociations juste en 2024. Donc, ça veut dire qu'au cinéma, là, on peut dire maintenant que l'année 2024 cinématographique, elle est morte et enterrée. Il n'y a à peu près rien qui va sortir.
Il n'y aura pas grand-chose.
Il n'y a à peu près rien, sinon rien du tout qui va sortir. Il va y avoir des productions télévisuelles qui vont quand même sortir parce qu'il y en a qui ont réussi à finir juste avant la grève, dont... La série House of the Dragon sur HBO. Donc, le tournage a été terminé juste avant la grève. Ils sont en train de faire la post-production. Et là, dans le fond, on a annoncé que la série va revenir, en fait, pour l'été 2024. Donc, pour les fans comme moi qui avaient vraiment, vraiment hâte de voir ça, House of the Dragon qui va sortir en été 2024.
Donc, il va y avoir du contenu en 2024, mais là, ça va être assez limité. Là.
Je comprends. Oui. Au niveau du cinéma, il n'y a presque rien qui va sortir parce que toutes les productions ont été arrêtées pendant. Je donne un exemple, le meilleur exemple, c'est Deadpool 3. Deadpool 3 est en pleine production. Et puis là, on a Hugh Jackman qui s'est entraîné pendant plusieurs mois pour faire ça. Et là, le film a commencé à tourner parce qu'on a eu des images, mais il est obligé d'arrêter. Mais là, pendant ce temps-là, Hugh Jackman, lui, il a 60 quelques années. Je pense qu'il a 60 ans ou 65 ans. Si on continue comme ça, à un moment donné, là, il y a des acteurs qui sont peut-être pas capables de finir certains projets un contexte comme celui-ci. Donc, c'est vraiment là qu'on est avec tout ce problème-là qui est présent, qui est... qui cause des enjeux, puis là, j'ai bifurqué un peu sur le reste de ma chronique à partir de Fast X, mais ça risque, là, justement, à cause de ça, le prochain Fast and the Furious, là, la production va être ralentie, parce qu'il devrait être en production présentement.
Oui, c'est ça, parce que c'est une vache à lait pour Universal. Là,
absolument, malgré que Universal a eu une année presque record,
ben oui,
parce que là, on ajoute à ça Oppenheimer, qui est, dans le fond, dans sa distribution, et puis là, si on va juste au niveau du box-office, du week-end présent, on a des films d'horreur qui sont produits par Universal aussi qui font très, très bonne figure. Five Nights at Freddy's, là, qui vient de faire 80 millions, là, dans le fond, la fin de semaine passée. On a encore The Exorcist Believer, qui est rendu à 60 millions aussi, mais c'est des films qui n'ont pas coûté bien cher.
Non, c'est ça.
C'est ça, puis qui vont rapporter beaucoup d'argent. C'est la première fois, je pense, que Universal a autant de titres dans les box-office dans l'année.
Ah, ils se sont vraiment bien repris.
En effet, là, c'est ça, exactement.
Impressionnant.
Oui, beaucoup. Puis là, il y a toutes sortes de nouvelles là, que je vous parle un peu, parce que là, j'ai comme pas le choix. Il y a plein de petites choses qui se passent.
Ben, moi, je pensais que c'était réglé un peu, le conflit des producteurs, parce que tu nous en avais parlé, puis ça avait de l'air à venir à terme.
Mais c'est venu à terme pour les scénaristes.
Mais pour les scénaristes. Mais exact. Là, on est rendu là, plus avec les acteurs.
Les acteurs. Puis les acteurs, ils ont commencé, dans le fond, eux autres, là, dans le coin du mois de juillet. Là. C'est-à-dire que là, on est rendu au mois de novembre. Ça commence à être long, là, en effet. Puis, tu sais, il y a des acteurs. Là, qui font beaucoup d'argent, eux autres, ils n'ont pas besoin de travailler. Là. On s'entend, là, ils vont être capables de payer.
Tom Cruise est correct. Là,
c'est ça. Mais c'est lui, dans le fond, il veut travailler parce que lui, là, il veut travailler. Pourquoi? Parce que c'est un bourreau de travail, premièrement. Et puis, deuxièmement, en plus de ça, c'est que c'est quelqu'un qui fait de l'argent, lui, en produisant des films. Il y a une compagnie de production. Là. C'est quand tu fais pas de films.
Oui, puis l'Église de Scientologie, ici, à Québec, qu'elle se paye aussi. Fait que Tom Cruise, il faut qu'il en fasse des films.
Mais c'est ça, c'est parce que lui, c'est un des acteurs qui porte les deux chapeaux. C'est parce qu'il est producteur, puis il est acteur aussi.
Ouais.
Donc, ça. Lui, il est dans les deux camps un peu là, là-dessus.
Ouais.
Là.
Tantôt, tu parlais de mise en forme au niveau des acteurs. Imagine juste garder un rôle puis te rester dans ton personnage. Il y a beaucoup de personnes qui vont s'isoler, qui vont se pratiquer à être dans la peau de. Imagine, tu fais ça pendant un autre 6 mois, man. Tu as des plans pour virer fou, là, tout dépendant de ce que tu.
Ben, il n'y aura pas le choix de décrocher là, dans un contexte comme celui-ci.
Exact, mais tu vas-tu revenir avec ce que tu avais comme momentum? Je pense pas. Là.
Mais un acteur, là, c'est fucké comme ça, hein. C'est capable de reprendre, là. Boum!
Okay.
Écoute, dans le fond, j'aurais...
Ouais, ils ont des coachs, ils ont un encadrement, là. Ils font pas de ça tout seul.
Mais ça va peut-être changer des films mais qui auraient été différents.
Il y a plein d'anecdotes où est-ce que, justement, des acteurs, tu sais, ont fait d'autres rôles puis sont revenus avec leur personnage. Puis c'est comme si ça avait jamais été, là. Il n'y avait pas eu de différence. T'as l'impression que le personnage a toujours été. Puis tu regardes, là, Vin Diesel là, jouer son personnage Dominique Toretto, là. T'sais, on s'entend qu'il... Je pense pas... T'sais, même si ça y ressemble, c'est quand même un rôle qu'il joue, mais il joue très bien, là, t'sais. OK, c'est pas très complexe, là, jouer ce personnage-là, mais quand même, là, t'sais. Sauf que, il y a d'autres nouvelles là, qui se passent au niveau de la télévision. Puis moi, ça, je trouve que c'est quand même assez gros là-dessus. Au niveau des plateformes, c'est que maintenant, là, ça fait un petit bout de temps qu'on parle qu'il y a plusieurs. Ça brasse pas mal au niveau de Warner Brothers, HBO, et puis la plateforme Max. s'appelle HBO Max.
Ouais, aux États-Unis, c'est Max. Puis ici, au Québec puis au Canada, ben, on est obligé de passer par l'intermédiaire de Crave pour avoir le même contenu.
Exactement. C'est ça. Mais c'est pas tout à fait la même chose, en effet. Parce
pas tout
que
à fait, ouais.
Il y a du contenu qui dans le fond, qui est de Universal, qui se retrouve sur Max.
Ouais.
Mais qui se retrouve de notre côté au niveau d'autres plateformes, comme entre autres Prime. Parce que, justement, là, Fastex, c'est Universal, mais ça se retrouve pas sur Crave.
Oui, c'est ça. Donc, il peut avoir, surtout dans les films, dans les grosses productions comme ça, là, les droits d'auteur sont différents qu'aux États-Unis qu'au Canada. Ouais.
En effet, les DRM sont malheureusement différents là, d'une place à l'autre.
Ben oui, c'est ça.
Mais là, je veux parler maintenant que le contenu d'HBO est disponible sur Netflix.
Alors,
la première série à faire son apparition sur Netflix, ben, c'est Six Feet Under.
Ça, est-ce que c'est juste du côté canadien?
Non, pas du tout. Là. Ça apparaît sur toutes les plateformes là, maintenant.
Okay.
Netflix a fait une entente avec seulement la partie HBO. Donc, on va avoir du contenu HBO qui va se retrouver potentiellement sur d'autres plateformes aussi. Là, parce que ça fait un petit bout de temps que ça... on pourrait dire que ça mijotait au niveau de tout ce qui se passe. Parce qu'il y a vraiment un brasse camarade au niveau de Warner Brothers présentement qui, potentiellement, on parle de rumeurs, mais c'est des rumeurs qui vont se fonder plus plausiblement dans les deux ou trois prochaines années, que Warner Brothers va être potentiellement acquis par Universal Pictures. Ce serait la seule compagnie présentement en liste d'être capable de le faire. Et ce serait logique pour eux autres de le faire aussi. Ça reste encore que, tu sais, je vous dis, on n'aime pas tellement parler de rumeurs aux technopreneurs. On fait souvent...
Il va plus dans le factuel.
Exactement, mais ouais. Là, il y a beaucoup de choses qui sont déjà en place pour que ça se transfère de ce côté-là.
Oui, il risque d'avoir des grosses acquisitions encore. Là, qui va se faire en 2024, ça, c'est sûr.
Oui, parce que dans
on
le fond,
voit beaucoup, là.
Il y a beaucoup de contractions qui se fait présentement au niveau des plateformes. Juste, on regarde aux États-Unis, Hulu a été finalement acquis complètement par Disney, dans le fond.
Ça s'est finalisé cette semaine?
Oui, en effet, ça appartenait à Comcast, dans le fond. Ça a été conclu cette semaine. Ce qui fait que là, évidemment, à ce niveau-là, ben là, Disney a une entièreté du contrôle sur le contenu de Hulu. Et Hulu, grosso modo, là, si vous voulez une comparaison avec l'aspect canadien...
Ouais, il n'est pas disponible ici, Hulu. Ouais.
En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent Star.
C'est ça.
Exactement. Donc, ce que Hulu, on va retrouver principalement, ce qu'on retrouvait sur les films de Fox, vont se retrouver principalement sur cette plateforme-là,
mm-hmm.
anciennement de Fox, et les productions de FX, qui est une des chaînes spécialisées là, qui appartient au même consortium. Là. Donc, c'est sûr que de notre côté, nous autres, si vous voulez savoir c'est quoi Hulu, bien, allez, si vous avez Disney+, allez dans la section Star, c'est pas mal ça.
C'est pas mal le même stock. Ouais.
Absolument, c'est la même chose. Il y a des choses de plus au niveau des États-Unis qu'on retrouve pas ici, parce que des choses, comme je vous donne un exemple, les séries comme Grey's Anatomy, ben ça va se retrouver sur Hulu. Mm-hmm. Mais d'un autre côté, ici, c'est qu'il y a des droits différents. Il y a une partie qui appartient à Radio-Canada, entre autres, parce que c'est eux qui font la diffusion française.
Ouais.
Puis la version anglaise, elle peut se retrouver, si je ne me trompe pas, sur Netflix. Donc, tu sais, encore là, c'est toujours...
Oui, ça va à gauche et à droite.
C'est toujours nos particularités qu'on a
ici. C'est ça. Mais eux autres, c'est un abonnement séparément supplémentaire, tu sais, pour Hulu, là.
Oui, exactement.
C'est ça. Tandis que nous, ben c'est pas mal...
ça fait partie de Disney+.
Puis le prix n'est pas vraiment plus cher. Fait que c'est pratiquement un bonus là, pour nous autres.
Oui, en effet. Jusqu'à temps que, tu sais, Disney+, votre façon va augmenter.
Ben oui, on le voit venir. Ben, il va y avoir beaucoup de changements. On fera un topo là-dessus.
Oui,
je pense qu'on est rendu là.
C'est ça, je saute beaucoup du coq à l'âne aujourd'hui. Parce qu'il y a vraiment... Il n'y a pas beaucoup d'histoires que je peux aller creuser profondément. C'est vraiment en plus des petites choses qui sortent ici et là qui sont intéressantes. Donc, je dirais c'est vraiment un peu l'actualité de la semaine que j'ai couvert dans ma chronique aujourd'hui.
Mm-hmm. Si on revient sur ton film Fast X.
Si je vous dirais Fast X, si vous êtes fan, vous allez vraiment, vraiment aimer ça.
Ouais, okay.
Sincèrement, écoute, ça s'écoute super bien. Là. C'est un 2h23, là, mais la seule affaire, moi, c'est qui me chicote, c'est faites une Christie de fin. Là, okay, là. Donnez-moi une fin, là, puis au pire, reprenez-la à la fin de l'autre film.
Oui, 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 c'est ça. Arrêtez
au début de l'autre film.
Moi,
les cliffhangers d'un film, c'est non, 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 non.
C'est juste pour dire, on va en faire une suite. Hey, écoute, le film n'était même pas fini. J'avais même pas commencé à checker le début du film. Je le savais tout de suite qu'il était pour avoir une suite. Je le savais.
Ben, tu sais, ça sent parce que, tu sais, le personnage est vraiment intéressant. Jason Momoa, son personnage, c'est un bon méchant, tu sais. Il y en a beaucoup qui trouvent que ça a été exagéré, mais moi, je trouve qu'il est vraiment bon là-dedans. Là.
Ah, OK.
Il est excellent, je trouve, dans ce rôle-là. Mais je voudrais, tu sais, allez le voir, là. Si vous aimez les chars, vous aimez les femmes.
Film d'action, no-brainer, facile à écouter.
Des belles madames.
des belles madames. Puis toi, JS, es-tu un fan de ce type de film-là? Ou,
Non. Moi, j'ai arrêté après Tokyo Drift parce que j'ai vieilli.
C'est le pire.
Non, c'est excellent, la petite.
C'est comme ceux-là qui arrêtent d'écouter Walking Dead à la deuxième saison.
Non, mais pourquoi tu fais violence? Moi, pendant toute ta chronique, j'étais comme, à cause que ce gars-là, qui est un amateur, un érudit du cinéma puis des séries, va écouter une cochonnerie comme Fast X. T'aimes vraiment ça te faire mal, Guillaume. Mais t'informes les auditeurs qu'il faut pas aller le voir.
Non, mais moi, je trouve ça intéressant qu'il est capable d'aller dans ces deux côtés-là. T'sais, c'est comme quelqu'un qui est vraiment très mélomane en musique, mais il est pas capable d'écouter rien de populaire. Ben, j'ai un peu de difficulté à comprendre.
T'sais. Ça marche pas. T'sais, moi, je suis...
Pourquoi tu suis pas la musique actuelle?
Il y a du bon pop. Puis il y a du mauvais pop. Ouais. Tu vas pas écouter celle qui chante à répétition, c'est son 14e album là, qui est mauvais. Là.
Ouais, non, ça, je suis d'accord avec toi, mais en même temps, c'est pas à cause c'est populaire que c'est pas bon, par exemple. Là.
Non, effectivement.
C'est ça. Il y a fait ça.
Non, exactement. Mais, tu sais, je veux dire, c'est comme, tu sais, j'ai pas vu Transformers Rise of the Beast. Hein, puis je penserais pas de le voir de sitôt non plus, moins que j'aille vraiment le goût de me péter la tête dans un mur.
En tout cas, c'est le cas, prends-toi en vidéo, on va checker ça.
Ah non, mais tu sais, je veux dire, ils ont tellement tiré la sauce de cette série-là que ça en est ridicule. Ouais. Là, t'sais, c'est vraiment. C'était déjà pas bon en partant, puis là, à cette heure, c'est encore pire. Mais tout ça pour dire que j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer. J'ai hâte de voir. Puis là, tu sais. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer avec la grève, là, parce que c'est vraiment.
Ouais.
C'est un gros problème. Puis il va falloir qu'à un moment donné, il y a du monde qui mette de l'eau dans leur vin.
Oui, on va voir ça. Ben, de toute façon, tu es là à chaque dimanche pour nous tenir au courant de tout ça. Tu nous fais des beaux topos là-dessus. Puis, gênez-vous pas aussi si vous avez une question pour notre zélé. Ben, sur notre page Facebook, Les Technopreneurs, allez-y. Gênez-vous pas.
J'ai probablement la réponse.
Écoute, tu as des belles connaissances. Puis, on aime ça avoir des topos là-dessus. Malgré qu'on veut rester dans le factuel. Mais, tu sais, on s'entend que, tu sais, ça streamousse quand même pas mal. Puis, il va y avoir beaucoup de changements en lien avec, tu sais, tout ce qui est l'offre de Netflix, de Disney+, de Crave, tous ces streamers-là. Donc, on va vous tenir au courant parce que vous allez comprendre qu'ils deviennent beaucoup plus en modèle télévision.
Oui, on a...
Publicité, on baisse le prix.
Je pense que je vais le garder. On va arrêter là la discussion. Je vais vous faire un beau topo là-dessus. Là,
où est-ce que, je pense qu'on est rendu là.
La télévision, en fait, le streaming 2.0, je pense qu'on est rendu à ce stade-ci.
Oui, exactement. Ça a changé beaucoup pour des dernières années. Ouais. Merci beaucoup, Zélé. Yeah. Et là-dessus, ben, nous, on va aller à la pause publicitaire. Vous allez comprendre, les technopreneurs, nous, on t'en ont jusqu'à 15h. Puis, on veut vous rappeler que c'est le fameux bingo qui est de retour sur les ondes de CJMD. En tout, c'est 3 000 $ à chaque semaine qu'on fait tirer en prix. 11,75 $, une carte à jouer. C'est pas cher, c'est efficace. On sait pas quoi faire le dimanche. Ben, actuellement, vous embarquez dans votre char, on swing directement au dépanneur, on va chercher des cartes parce que vous avez encore vraiment du temps pour participer. Ça commence à 15h cet après-midi. On diffuse ça sur YouTube, évidemment, bien sûr, le 96.9. Vous pouvez écouter ça sur l'application aussi. C'est super facile d'y participer, rien de compliqué. Donc, pour tous les détails, bien évidemment, au 969fm.ca. Restez là, parce qu'après la pause, on a ma chronique Jimbo Tech, puis on a d'autres actualités technologiques. Restez là!
La radio des formateurs!
CJMD. CJMD. 96.9.
cgeplevy.ca.
CJMD. Téléchargez notre appli.
La seule station.
OK, je l'étudie, Vapking.
Vapking. La radio de Lévy.
Suivez-nous sur TuneIn.
CJMD. L'alternative radio.
Au prix du polymère.
Ôtez-vous de là.
CJMD 96.9.
96.9.
Troisième lien, Jean Talon et le mensonge en politique. Oh,
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Attendez un peu, je pense que le pont de Québec essaie de nous dire quelque chose.
Ne manquez pas Laurent Létruant du lundi au jeudi dès midi.
Stadaconé.com.
Vous écoutez
parce que la meilleure radio de Québec est à Lévis.
CJMD 96.9 Lévis, ôtez-vous de là.
Ici M-Post, vous écoutez CJMD 96.9 Talk, Rock et Hip Hop. Yeah.
Hey yo, what up, en direct du 483, c'est ONZE, vous écoutez CJMD sur 96.9. Check ça.
Ici Mossy et vous écoutez la seule vraie option hip-hop au Québec. Bravo d'écouter l'alternative radio CJMD 96.9. Boom!
Ok, je l'étudie, Vapking. Vapking.
96.9. Demandez à Alexa.
CJMD. Talk. Rock. Hip-hop.
ImmeubleCS.com.
Et oui, vous êtes de retour au Technopreneur en ce dimanche 5 novembre 2023. Et il est 13h37 et nous, on t'en ondes jusqu'à 15h cet après-midi pour vous divertir, vous jaser de technologie, vous vendre des produits trop chers. Ben voyons, qu'est-ce que je dis là? Ben non, on est là pour décortiquer là, vraiment la technologie. Puis à chaque semaine aussi, on a un entrepreneur qui vient de présenter son beau projet. Et cette semaine, ben c'est Samuel Labbé, l'animateur du show sur les ondes de CJMD, le show des Trois Flots. Et puis là, lui, il se lance en projet entrepreneurial, donc il va venir nous jaser de tout ça. On va l'avoir via StreamYard. C'est son nouveau projet, donc ça s'appelle Production Bleu Flamand. Et il est aussi le fier ambassadeur de Face au Dragon.
Oui, en effet. Donc, c'est lui qui avait remis les prix là, l'année passée, je ne me trompe pas.
Oui, exact. Fait que donc, là, Flamand, c'est vraiment lui l'ambassadeur cette année. Donc, il va nous jaser de tout ça un petit peu plus tard dans l'émission. Et puis, nous, on continue l'émission en actualité technologique.
Hey, on va avoir des nouvelles pommes professionnelles?
Oui, exactement, c'était ça que tu voulais dire vraiment. à vrai dire, c'est Apple cette semaine qui ont annoncé des nouveaux MacBook. Donc, on se lance dans des ordinateurs assez haut de gamme, on va le dire comme ça. C'est un événement qu'Apple, sont tellement drôles. Il avait nommé l'événement Scary Fast parce qu'on annonçait ça juste à la veille de l'Halloween pour présenter des nouveaux ordinateurs très rapides. Donc, les MacBook Pro, nouvelle édition. La seule affaire qu'on peut dire, que s'ils vont plus vite, ils vont plus vite, puis ils vont plus vite. C'est pas mal ça. Donc, c'est pas mal ça qu'on voulait vendre durant la conférence. Donc, avec une nouvelle génération de puces. Donc, la puce, ouais, la M3. On s'en va là. Donc, on faut comprendre qu'Apple, se trouve tout le temps à comparer un peu les performances de ses anciens ordinateurs versus ses nouveaux. Donc, c'est un peu ça qu'on se trouve à mentionner. C'est exactement ça qu'on a mentionné pendant la conférence.
C'est toujours ça qui est la force d'Apple. C'est qu'ils contrôlent l'infrastructure autant matérielle que logicielle.
C'est là qu'ils sont forts.
C'est pour ça qu'ils sont aussi robustes, leurs appareils, t'sais, autant au niveau des problèmes de sécurité que tout simplement des problèmes de bugs logiciels versus le matériel. Quand tu contrôles tout, c'est plus facile de prévoir les imprévus.
C'est surtout aussi que c'est optimisé à 100%.
Exact.
Puis pour arriver à une optimisation comme ça, juste pour vous dire que leur dernier MacBook Pro qu'ils viennent juste d'annoncer, on va parler quand même d'une durée de 22 heures de pile pour un ordinateur portatif qui est hallucinant. Je vous dirais, là, si on s'en va juste voir la compétition, qu'est-ce qu'on offre, on est loin en arrière. Là.
C'est pas le mode d'économie de batterie,
non,
ça.
Non, c'est
le
mode standard.
Exact.
Mode standard, là. Et puis, qualité sonore exceptionnelle aussi sur le portable, qualité de fabrication exceptionnel aussi. Et juste pour vous donner une idée à peu près de la performance, donc si on possédait un MacBook Pro avec la puce M1, Ben, si on passe à la puce M3, si vous faites du montage via un logiciel comme Final Cut Pro, ben, votre rendu final va être 60% plus rapide avec la nouvelle puce. Et puis, on s'entend que pour du montage vidéo, s'il y a vraiment quelque chose qui est demandant à un ordinateur, ben, c'est ça, là. Donc, je vous dirais, là, dans la création, montage vidéo, ça demande du jus.
Rapidement, pour les auditeurs, le rendu, c'est quand on fait du montage vidéo, c'est la partie où est-ce que l'ordinateur calcule les effets qu'on a inclus dans notre structure de montage.
Mm-hmm. Oui, exact. Donc là, cette fois-ci, on part avec un écran 14 pouces aussi, donc pour remplacer le de 13 pouces qu'on avait sur les modèles précédents. On a enlevé aussi la fameuse barre tactile qui est vraiment que je pense qu'on n'avait pas énormément de preneurs. Il n'y avait pas vraiment de gens qui tripaient sur la petite barre tactile que Apple avait réalisé. On l'a enlevé, donc on a enlevé ça aussi. L'ordinateur qui est disponible en précommande, je vous dirais, ça sort le 7 novembre, donc la semaine prochaine.
Mardi.
Et ça commence à partir de 2100$. Donc, et puis on offre un financement aussi sur le site d'Apple pour peut-être alléger tout ça là, sur 6 mois. Mais on est là du côté d'Apple. Donc on veut juste continuer à pousser la machine. Mais on voit qu'Apple, par exemple, veut pas s'en aller dans un mode rapport qualité-prix. Je les trouve un peu ridicule un peu de ce côté-là. Parce que ils font tout innover leur nouvelle puce pour voir peut-être arrêter de les fabriquer. Mais tu fais comme ouais, mais tu sais, peut-être que tu peux offrir de jeunes machines qui est extrêmement spectaculaire en termes de performance, puis que tu pourrais vendre vraiment moins cher. Puis on dirait qu'on n'est pas là. On n'est encore pas là du côté d'Apple.
Il continue à garder le créneau du haut de gamme.
C'est ça. Donc là, c'est comme si... Parce que c'est quand même assez drôle que pour des compagnies haut de gamme, autant, exemple, si je prends les marques de véhicules haut de gamme, là, BMW, Audi, Mercedes, ben tu sais, eux sont vraiment beaucoup plus dans la tangente actuellement de faire des chars rapport qualité-prix, baisser leur prix, avoir des SKU plus pour monsieur, madame, tout le monde. Mais du côté d'Apple... On n'est pas encore là, tout à fait. En tout cas, bref, pour la branche informatique, donc pour la branche Mac, pour Apple, c'est assez cher, qu'est-ce qu'on offre. Vraiment, mais exceptionnel comme performance.
Les critiques sont... veulent aussi comme
les critiques, marché. Les critiques sont top. Fait qu'ils, écoute, ils sont tout seuls sur leur planète actuellement. Là.
Parce que c'est vendu à la base comme un outil de travail plus que juste un ordinateur. C'est ouais. Ça la grosse différence. C'est un PC, là, c'est un ordinateur d'utilisation de tous les jours. Tandis qu'un Mac, c'est principalement...
C'est un outil de productivité.
Exactement.
C'est pas juste pour consulter des courriels. Là,
non, là, c'est ça. T'sais, c'est pour des gens qui travaillent dans la vidéo, dans l'image. Ça reste toujours les meilleurs appareils. T'sais, même moi, qui est vraiment un pro PC, je suis obligé de dire que malheureusement, ouais. Les meilleurs appareils de montage restent les MacBooks. Là. Les MacBook Pro et, ou tout simplement les iMac Pro aussi.
Oui, on essaie de le vendre beaucoup aussi dans leur publicité, monsieur, madame, tout le monde. Mais quand on vérifie en profondeur, tranquillement, pas vite, on se rend compte que c'est vraiment peut-être plus un bel outil de productivité, mais c'est sûr, si vous achetez ça, c'est un ordinateur de 10 ans là, que vous
exact.
Achetez. Là, c'est au minimum. Là.
Puis dans 10 ans, vous allez être capable de leur vendre un 500-600$ facilement.
Oui.
Là.
C'est fiable. Là. Ça dure longtemps quand même. Donc, allez voir le site d'Apple pour tous les détails. Donc, voilà. Donc, c'est un peu ça qu'on avait annoncé cette semaine du côté de Apple. Je veux rappeler à nos auditeurs aussi qu'il y a le fameux retour du bingo à CJMD. Hein? C'est cet après-midi, ça commence à 15h. Chico et sa gang qui anime tout ça. 3000 au total en prix, 11,75 pour participer, pas trop cher. Tous les détails au 969fm.ca. Et si vous vous dites, j'aimerais ça peut-être participer aujourd'hui, il est encore le temps, vous pouvez aller dans tous nos points de vente, acheter les cartes pour jouer cet après-midi. Et puis, on diffuse tout ça aussi sur YouTube pour ceux qui aimeraient avoir un côté visuel au bingo. Mais ça, ma radio, ça va vite un peu, on voit pas les chiffres. Non, nous, on diffuse tout ça sur YouTube.
C'est super dynamique en plus.
Oui, exactement. Donc, allez-y, essayez-le, le bingo de CJMD. Et là, nous, on change de sujet, on s'en va jaser de jeux vidéo avec ma chronique Jimbo Tech.
Rétro-techno, le jeu vidéo, c'est Jimbo, Jimbo Key, Jimbo Tech.
Ben oui, un petit topo. C'est un peu mélangé, moi aussi, un peu comme la chronique de Bouchard. On va aller à gauche, on va aller à droite, on va revenir dans le milieu. Mais je veux commencer par parler, parce que finalement, cette année, en début d'année, ben je suis allé faire un tour au Japon. Hein. Vous le savez, je vous ai fait chier avec ça.
Oui, en effet.
Et puis, je suis allé voir aussi Universal Studios, donc le Super Nintendo World, donc qui est l'attraction à Osaka. Là, donc, on sentait qu'il y avait du monde là. Mais là, faut comprendre que le Super Nintendo World, donc le parc d'attractions thématique Ben, Super Nintendo, là, je vais le dire comme ça, avec une attraction de Mario Kart, une petite attraction aussi de Yoshi.
Mon cousin est allé.
Qui est disponible maintenant aux États-Unis, donc c'est ouvert maintenant, en Californie, donc on peut aller le visiter. Écoutez, là, il est correct, le Super Nintendo World, mais c'est rien de si fantastique que ça. Il n'y a pas assez d'attractions pour que ça soit intéressant pour des jeunes adultes, voire début adolescence, adultes. Je vous dirais, avec vos enfants, vous allez avoir du fun là. Le bracelet qui coûte ben trop cher pour avoir de l'interactivité à cogner sur des points d'interrogation, là, pour avoir des scènes, là, pour finalement voir comparer tous nos trucs. $50 US, pratiquement, le bracelet, ça avait comme pas de sens un peu là. Donc, je vous dirais, au final, moi, le monde de Super Nintendo, il était intéressant à voir, mais vraiment, tu sais... Trop de hype, là. C'est un peu trop, trop médiatisé, là. C'est pas si intéressant que ça. Pour des enfants, aucun trouble avec ça. Mais pour des adultes, je vous dirais, il y a peut-être quelque chose de plus intéressant. Allez voir, peut-être au Japon. Et ça s'en vient l'année prochaine du côté de Nintendo, parce qu'on a décidé de faire un musée pour vraiment rendre hommage à l'héritage de la compagnie. Puis il faut comprendre que Nintendo était déjà présent dans les années 60, 70, même début 1900, parce que Nintendo était une compagnie qui faisait des jeux de style de cartes, donc des jeux de cartes. On était pas mal là. Puis à voir aussi que l'entreprise est allée vraiment dans des types de jeux différents aussi dans les années 60, 70 pour après ça tomber dans l'univers du jeu vidéo. Mais c'était pas dans les cartons de l'entreprise dès le début, là.
Non, puis en plus, la bâtisse qu'ils ont choisie pour faire ça, c'est vraiment une des plus vieilles bâtisses de Nintendo qui ont, dans le fond, depuis 2021, qui restaurent.
Oui.
Ça devait s'appeler la Nintendo Gallery, puis c'est devenu le Nintendo Museum.
Oui, exactement. Donc, puis on va vraiment... C'est vraiment pour faire un tour d'horizon de toute l'entreprise. Donc, autant dans les vieilles années que dans le début des jeux arcade bizarres un peu, là, mécaniques, je vous dirais, dans les années 60, vers les années 70, on faisait des drôles de petits jeux aussi, des jouets aussi.
C'est vraiment intéressant, Nintendo. L'histoire de Nintendo. Ben, je trouve. Oui. Il n'y a pas de vrai documentaire qui a tout sur toute leur histoire qui
non,
existe. Hein,
non? Non, plein de YouTubers à gauche et à droite, exact. Mais pas de rien d'officiel.
Non, c'est ça.
Mais ça, c'est un musée officiel. Donc, ça va être ouvert l'année prochaine. Donc, c'est sûr, si vous allez faire un tour au Japon, vous êtes un fan de Pokémon, de Nintendo, ben là, vous comprenez qu'on vient d'acheter un itinéraire. Là. Donc, d'aller voir ce musée-là, je trouve super intéressant. Je trouve que c'est une excellente idée. Puis, ben, à vrai dire, ça devrait ouvrir aux alentours de mars 2024. À peu près, dans ces eaux-là. Donc, chapeau pour ça. Puis vous allez comprendre aussi que le Super Nintendo World, il continue à avoir son expansion. Hein. Ça va être gros. Ça va devenir gros. Actuellement, c'est encore dans ses débuts. Donc là, du côté du Japon, à Osaka, l'expansion, la prochaine expansion, c'était dans le monde de Donkey Kong. Donc, on veut essayer de réaliser à peu près le même genre de thématique que vous avez vu du Super Nintendo World pour Mario. Mais là, dans l'univers de Donkey Kong. Mais dans l'univers de Donkey Kong Country...
Ah oui, c'est
avec
sûr,
des palmiers et des petites cabanes.
C'est sûr, c'est Donkey Kong Country. Là.
C'est pas mal là. Puis là, oui. C'est là qu'on construit une des montagnes russes assez révolutionnaires. Là. C'est ça, c'est là qu'on s'en va. Puis après ça, ben, on va continuer. Donc, le but, là, c'est vraiment d'élargir ça, d'avoir pratiquement 5 à 6 thématiques dans l'univers de Nintendo, dans ce segment-là de Universal. Parce que c'est Universal qui propulse vraiment le monde de Super Nintendo.
Il me semble que la suite logique serait Zelda après.
Ben là, c'est Donkey Kong.
Ouais, mais après Donkey Kong, c'est ça. Ça serait Zelda.
Peut-être attendre quelques années avant d'aller visiter. Parce que là, quand tu vas avoir un gros theme park avec plusieurs extensions, comme tu parles.
Ouais,
là.
Mais des fois, faites attention. Parce que, tu sais, si on regarde là, les theme parks de Star Wars, entre autres, il y a des sections qui vont fermer là à cause que Disney, c'est pas assez rentable.
Ben, c'est gigantesque aussi.
C'est ça.
Mais c'est le personnel de ces parcs d'attractions-là qui est hallucinant. Ça en prend du personnel pour faire une belle expérience. Mm-hmm. Parce que des fois, tu sais pas trop si où tu t'en vas. C'est gros, c'est large. Il y en a. Là. Donc, tu sais, moi, au monde... Universal Studios à Osaka, ben, tu sais, il faut comprendre qu'il y avait le monde d'Harry Potter, le monde de Super Nintendo, évidemment, toutes les franchises aussi de Universal qui en font partie, le monde de Jurassic Park, puis il y a des vieilles franchises là-dedans, là, tu sais, des fois, tu t'attends peut-être pas, mais tu fais comme, ah, ouais, il y a encore le fameux théâtre de Waterworld. Ben, coudonc, un monde sans terre avec Kevin Costner. Puis tu vas là, puis Christy, c'est bon. Tu fais comme, ah, Christy, pièce de théâtre, c'est bon. C'est excellent, donc c'est vraiment très bien fait.
Un des pires flops de l'histoire, mais pas parce qu'il était mauvais le
non,
film.
Non, il était bon.
C'est parce que le problème, c'est qu'à cause des problèmes qu'il y a eu pendant le tournage, jusqu'à la fameuse grosse station a coulé, puis on a été obligé de la
repêcher. Ouais.
Fait qu'il a coûté 185 millions le film. Ouais. C'est ça le problème.
Ouais,
c'est
ça a coûté trop cher.
Exactement, il a coûté trop cher pour qu'est-ce qu'il a rapporté par la suite. Mais c'est ça que j'aime, dans le fond. T'sais, Universal, ils ont comme une espèce de deuxième... c'est comme une compagnie sœur un peu qui gère les parcs d'attractions. Là.
Oui, exactement. Mais ça fait partie quand même encore du même écosystème. Il faut comprendre que Universal, ça appartient maintenant à un grand propriétaire, donc un opérateur de services, un fournisseur d'accès à Internet, donc qui est Comcast aux États-Unis. Mm-hmm. Donc là, un peu, hein, toutes les grosses compagnies qui font du contenu maintenant... C'est pas mal, donc, une compagnie qui fournit de l'accès Internet ou du câble aux États-Unis. Donc, on peut parler de Viacom pour Paramount, on peut parler de Universal, Comcast Universal. Ah. Puis ici, puis au Québec, ben c'est quoi? Ben, c'est Vidéotron Québec Art. T'sais, on est un peu vraiment dans les mêmes genres de business aussi. Puis même là, ici, Québec Art, puis Vidéotron, ça a été début 2000. T'sais, eux autres, ces achats-là, ça a été fait plus dans les années 2010, 2012, 2014, 2015. Puis là, ben au moins, ils sont plus sûrs d'avoir du cash qui rentre tout le temps, parce que vraiment, on s'entend que c'est tout le temps un univers à risque quand même, créer un super jeu vidéo, créer un super film gros budget avec Vin Diesel. Puis,
Convergence, c'est toujours ça, la solution, tu sais, avec ce genre de structure de compagnie-là, ben, ouais. C'est la convergence qui fait fonctionner toutes les compagnies ensemble.
C'est ça. Puis moi, j'aime bien le dernier Elvis Graton, tu sais.
La convergence, c'est comme une pompe à barde. Une fois que t'en pars... Ça s'arrête pas. C'est un peu ça.
Ce film-là, il est rempli de petits bijoux.
C'est un peu comme une pompe à barbe.
Mais ça m'intéresse. Jimmy a parlé de Comcast. Allez voir Comcast, ils sont propriétaires de quoi. Allez voir. Les grosses compagnies, ouais. Quand on descend l'organigramme, oui. quand on le remonte pour découvrir, c'est super intéressant. Puis on comprend un peu mieux, justement, le. Comment ça fonctionne, puis pourquoi ils prennent ces décisions-là?
Warner Brothers, si je ne me trompe pas, c'est AT&T. Fait que, tu sais, c'est comme ouais. C'est vraiment toutes des compagnies de télécommunications qui ont acheté. Puis, tu sais, c'est dans l'histoire, là, quand on regarde, les studios, à la base, c'était des êtres humains qu'ils avaient, là. C'était les Warner, pourquoi on appelle ça Warner Brothers? Parce que c'était les trois frères Warner qui avaient ça. Tu sais, dans le fond, MGM, c'était pour Metro Goldwyn Mayer, parce qu'il y avait Louis B. Mayer, qui était un des propriétaires. T'sais. Fait que c'est un peu, tu sais, c'est ça qui. Puis ça, dans les années 70, ben, c'est là que c'est la première fois que les corporations ont pris contrôle des studios. Puis depuis ce temps-là, ça passe d'une corporation à l'autre comme ça.
Oui, c'est un peu ça, ouais. Ouais. Effectivement. Voilà pour le musée de Nintendo. Fait intéressant du côté du Québec. On en fait beaucoup des jeux vidéo, hein? Même énormément. On a parlé de Sea of Stars qu'on avait adoré, moi puis JS, donc jeu fait par Sabotage Studio ici à Québec. Mais il y en a plein d'autres des fois qu'on entend moins parler un peu, parce que des fois, ils sont peut-être pas autant sur les plateformes mainstream, donc PlayStation, la Switch, la Xbox. J'avais jamais entendu parler de ce studio indépendant-là qui s'appelle Chien d'Or.
Comme le fromage?
Donc, il se trouve à faire des jeux basés sur des faits québécois. Donc, et là, ils en font un sur la crise d'octobre. Donc, on veut vraiment raconter l'histoire dans un jeu vidéo d'horreur. C'est un peu ça. Le studio, ils ont fait aussi La Vallée qui murmure, qui est un jeu vraiment qui passe, un jeu sur le douloureux passé catholique du Québec. Et là, on décide d'aller vers le jeu qui s'appelle Cauchemar d'octobre, donc en lien avec les événements de la crise d'octobre dans les années 70. Excellente idée. Je trouve ça super bien d'arriver à dire on va aller chercher des sujets comme ça très niche, puis on va essayer. Est-ce qu'ils vont être capables de vendre ça peut-être plus pour l'international? Je le vois peut-être moins un peu, mais si c'est super bien réalisé, c'est bien fait, avec une belle approche, il faut comprendre qu'on y va vraiment vers un jeu d'aventure, point and click. Donc, point and click, on dit ça fait penser un peu au vieux jeu de Sierra, au vieux jeu de LucasArts, qui était disponible sur PC dans les années 90, voire les années 80.
Comme c'était des bons jeux.
Un peu trop difficile pour rien, mais oui, c'était quand même des bons jeux à l'époque. Je vous dirais, est-ce que c'est intéressant de voir ça? Oui, puis j'ai vraiment hâte de voir aussi où qu'on va s'en aller avec ce type de production-là. C'est pas la première fois aussi qu'on voit ça aussi. Donc, chapeau au studio. Et puis, je vous dirais, ça va sortir sur PC à partir de l'année prochaine. Mais c'est pas une grosse équipe, donc ça se peut qu'il y ait aussi des retards en lien avec ça. Je trouvais ça intéressant.
Quand les jeux obligatoires à l'école? T'sais, on a eu des lectures obligatoires quand on était jeune. Tu vas jouer à ça, là. Tu vas apprendre ça à la crise d'octobre.
C'est ça. Tu vas la vivre.
Ouais.
C'est ça, tu vas la vivre. Là.
On va te mettre dans un coffre de char. Puis,
on va te tuer.
Tu vas voir, c'est dark. Tu vois, c'est bien, bien dark. bizarre, mais cette semaine, je vais vous faire la critique d'un vieux jeu vidéo parce que, évidemment, ma chronique Jumbo Tech, ben, ça sera un peu niaiseux de pas parler de qu'est-ce que moi je consomme en tant qu'individu dans le monde du jeu vidéo. Et puis, là, j'ai décidé de terminer un jeu que ça fait longtemps que j'avais sur ma to-do list, c'est-à-dire The Evil Within, qui est un jeu d'horreur à la troisième personne réalisé par M. Senji Mikami, donc un des grands créateurs de Resident Evil. Donc, quand il a formé son studio Tango Gamework au Japon, puis après ça, ben, ce studio-là, ça a été acheté par Bethesda. Faut comprendre que, donc, par la suite, ben, on est arrivé à faire un jeu d'horreur avec un excellent potentiel. J'ai eu du gros fun à jouer à ça. Donc, une trentaine d'heures que ça m'a pris pour finaliser le jeu. C'est quelque chose. C'est vraiment... C'est dans tout. Tu l'as fait, JS, en partie?
C'est une expérience, exact. Oui. Moi, j'étais un gros fan de Resident. Puis quand j'ai su que ce jeu-là sortait, ben, dès qu'il est tombé en spécial, je l'ai acheté.
Tu l'avais acheté, oui. Ben, ouais. Initialement, c'est sorti PS3, mais c'est sorti aussi sa PS4 aussi. Disponible sur Xbox One aussi. Xbox 360. Donc, ça date quand même. Donc, octobre 2014 que c'est sorti. Il y a une suite aussi, Evil Within 2, qui est sorti au mois d'octobre 2017. Et c'est pas mal resté là, du côté de ce studio-là. Donc, Tango Soft Gamework qui sont arrivés avec Tokyo Ghostwire qui est sorti sur la PS5 en exclusivité aussi. Donc, un studio qui est quand même qui roule sa bosse. Mais là, M. Senji Mikami, lui, il est parti. Il va peut-être former son prochain studio où il a peut-être décidé juste de prendre sa retraite. Mais ça paraît que c'est le créateur de Resident Evil. Donc, si vous êtes un fan de Resident Evil, pour moi, c'est partiment du no-brainer d'aller jouer à The Evil Within. Pourquoi? Ben écoutez, on rentre dans une grosse maison qui a de l'air d'un château, qui a de l'air de lui de Resident Evil 1. À un moment donné, il y a une séquence de chainsaw. Ben oui, évidemment, il fallait que quelqu'un court après une chainsaw dans le jeu, comme Resident Evil 4. Donc, il y a plein de clins d'œil à Resident Evil, mais là, poussé. Là, on pousse ça. Là, c'est psychédélique. On a des flashbacks tout croche. On comprend pas où on est. On change d'environnement sans trop nous le dire. Le jeu, s'il décide de nous faire peur, il réussit très bien. Tu sais, quand tu dis, là, tu vois une petite une image, puis là, il y a quelque chose qui bouge dans l'image. Puis tu fais, pourquoi que ça bouge dans l'image? Puis ils te font faire un saut. Donc, jump scare, c'est présent.
Merci de me dire que je jouerai pas ce jeu-là.
Mais c'est un beau défi. C'est ça qui est le fun. Puis le jeu, tu sais, autant qu'il... Tu fais comme, parce que, évidemment, c'est dans la branche des survival horror. Donc, ça veut dire que on est très limité dans les guns qu'on a, les balles, la façon qu'on va se guérir. C'est un beau défi. Puis là, on dirait le jeu, des fois, il fait exprès de faire comme... Ouais, là, t'as rien, puis vas-y, là, va battre le boss. Puis là, tu fais comme, ben là, ça marchera pas. Mais là, il y a une stratégie en arrière de tout ça. Il y a une cinématique qui va apparaître à un moment donné. Donc, le jeu, il est bourré de surprises. Donc, pour ceux, là, vraiment, qui adorent les survival horror, je le conseille énormément. Je donnerais un bon 8.5 sur 10.
Ah oui, c'est mérité.
C'est bien mérité. Je vous dirais, c'est sûr que moi, je venais juste de terminer de Callisto Protocol au PS5. Donc là, c'est sûr que là, tu te rends compte qu'en 10 ans plus tard, il y a un beau clash en termes de graphique puis de présentation, mais en termes de programmation, c'est beaucoup mieux ficelé d'Evil Within, c'est mieux fait, il y a beaucoup plus de possibilités, puis tu sais, on voit que le jeu aussi est beaucoup moins linéaire dans son approche aussi, donc ça, au moins, c'est chapeau pour ça. Et puis si vous l'aimez vraiment, ben devinez quoi, il y a une suite aussi disponible d'Evil Within 2, et puis moi, j'ai joué au PS Plus Extra, là. Ça faisait partie, les jeux faisaient partie de l'abonnement gratuitement, donc pour ceux qui sont extra, vous l'avez gratuit dans votre librairie. Voilà pour ça. Et pour terminer ma chronique, ben, je voulais parler de Robocop. On est-tu des fans de Robocop, ça?
Ben oui.
J'ai vu la cinématique.
Ben, à vrai dire, c'est Robocop Rogue City qui est sorti cette semaine. Donc, pour les consoles de nouvelle génération, donc PC, PS5, Xbox Series X. Ben oui, là, ça commence à te faire mal, là, le fait d'avoir
parce
une PS4.
Parce que là, ça, là, sérieusement...
Ça te parle?
C'était probablement un des jeux que j'aurais joué comme drette là.
Ben, vas-y, donc, c'est un jeu de tir, donc c'est un shooter, évidemment. Donc, à la première personne, donc, on est vraiment Monsieur Peter Weller. Donc, directement, même chose. C'est vraiment bien réalisé. Les graphiques sont assez poussés. On est vraiment dans cette nouvelle génération de jeux de PS5.
Juste les reflets de lumière sur sur son armure, là. Déjà là, ça, moi, c'est venu me parler beaucoup.
C'est ça.
Parce que c'est pas des... Parce qu'elle est comme en stainless, un peu, son armure. Fait que c'est pas un vrai reflet métallique. C'est comme un reflet qui est comme, je dirais, un peu voilé, là. Fait qu'ils ont réussi à reproduire ça. J'ai fait « Ah, oh, wow! »
Oui, côté graphique, côté présentation, on est vraiment sur la coche pour le jeu. Les critiques sont quand même bonnes de façon générale.
En effet.
C'est sûr, si vous faites voir, il n'y a peut-être pas assez de jouabilité pour le prix que je vais payer. Ben, faites juste attendre un peu qu'il descende en spécial, là, je vous dirais. Mais il vient juste de sortir le jeu. Là. Donc, c'est vraiment, ça a été conçu par et publié par Nacon. Donc, il avait fait un jeu Terminator qui était sorti au PlayStation, qui était quand même des bonnes critiques, qui était quand même bien réalisé aussi. Puis là, on a décidé vraiment d'avoir la franchise Robocop puis de faire shiner ça. Mais c'est vraiment bien fait. Là, vous incarnez ça. On est encore dans l'univers du premier Robocop, oui. Je vous dirais. Mm-hmm. Donc, oui, là, il y a la drogue, c'était quoi? C'est le nuque. La drogue de Robocop, l'OCP, ouais, hein, qui est
l'OCP
là.
Est
L'OCP, donc, qui est au contrôle de la société de Détroit. On est encore très trash de ce côté-là. Bon, je sais pas à quel point qu'on voit du monde faire de la coke sur des putes. Là, je sais pas si on est là non. Dans le jeu.
Ouais, mais c'est pas ça, c'est The Wolf of Wall Street.
Ah, OK. C'est un film de Martin Scorsese.
Ouais, c'est ça. C'est pas le même univers.
Mais vraiment, c'est sûr que pour ceux qui ont pas vraiment écouté Robocop, le vieux film, c'est trash, là.
Ben, c'est
ça vieillit bien,
c'est un classique de Paul Verhoeven. Si vous avez, tu sais, si vous aimez, vous aimez un peu les films de série B, vous allez aimer beaucoup ce film-là, malgré que ça n'en est pas un. Parce que c'est un film des années 80 qui est un classique, mais pour aujourd'hui, tu sais, prenez-le dans le contexte d'un film de série B, vous allez le voir différemment, vous allez probablement l'apprécier beaucoup plus aussi.
Mais c'est vraiment bien fait. Il vieillit super bien, ouais, ce
absolument.
Film-là. C'est vraiment, moi, c'est ça, j'ai été impressionné. C'est quand j'ai réécouté, j'ai dit, mais voyons, ça vieillit donc bien, bien. C'est sûr, faut que tu te mettes vraiment dans les années 80-90. Mais du moment que tu te mets dedans, là, écoute, c'est vendu.
C'est pour ça que je dis que pour les plus jeunes aujourd'hui, mettez-vous en tête, c'est un film de série B, ouais. Vous allez l'apprécier bien plus. Que moi, tu sais, moi, je regarde pas ça comme un film de série B. Pour moi, c'est un classique, là.
Ah oui, c'est ça. Ouais.
Autant que Total Recall, mettons, là.
Oui, c'est ça. Oui, parce qu'il y avait tout un côté dark au film de science-fiction à l'époque.
Oui.
Tout le temps. Puis là, c'est, on dirait qu'à toutes les fois, on voit la science-fiction. Maintenant, c'était juste des ordinateurs, des robots, de l'intelligence artificielle. On parle à un robot, à nous, t'sais, le robot nous répond. Mais c'est vraiment dans les années 80, on n'était pas là, là, des films de science-fiction. Dark.
Non, c'était, c'était des grosses machinations.
Oui.
Tu sais, regarde, comme, tu sais, autant que dans ça, c'est OCP, la grosse compagnie. Autant que dans Total Recall aussi, c'est le même genre de totalitarisme, si on pourrait dire.
Mm-hmm. Donc, pour ceux vraiment qui adorent Robocop, qui voulait vraiment avoir un jeu Robocop à la hauteur des films, le v'là. Il n'a jamais eu. Le v'là, après tant d'années d'attente. Ça reste original, justement, à cause qu'on n'a pas eu tant que ça des bonnes adaptations. Tu sais, films, tu sais, qu'on revient, là. Tu sais, des vieux films de l'époque, puis on les armait au goût du jour. Comme ça, n'a pas eu tant que ça. Fait que c'est une excellente idée, je trouve.
Surtout dans le contexte de la mauvaise adaptation du film qu'il y avait eu en 2014, qui était vraiment mauvaise.
Ouais, ouais, ouais.
C'était exécrable, c'était mal fait, c'était mal ficelé.
Tu sais, il était trop adapté pour tout le monde.
Mais on a essayé, tu sais, dans le fond, là.
On a voulu faire un gros film.
Une roue, c'est rond.
C'est ça.
OK? Essayons pas de la réinventer à chaque fois qu'on fait un film.
Donc, voilà le commentaire du zélé, hein, vous allez comprendre.
Mais
il l'a dit ou il l'a pas dit?
Mais
il
c'est pour dit. Ça que reprendre un classique comme ça, puis tu sais, on le sait que, tu sais, nous autres, on rentre dans la catégorie des adolescents, là. Tu sais, ouais. Les gens qui sont malgré adultes, on aime encore ce qu'on faisait quand on était jeune. Donc, c'est pour ça que des jeux comme ça vont bien fonctionner, parce que les gamers d'aujourd'hui, qui sont en quarantaine, là, comme nous autres, là, ben, peut-être
ben
pas.
Ouais, mais c'est nous qui achètons les jeux. Hein.
Exactement. C'est ça.
Fait que voilà.
On contrôle l'industrie. Oui, on contrôle l'industrie.
On joue, c'est ça. Puis on joue beaucoup la carte de la nostalgie de cet ainsi. Puis ça fonctionne encore très bien.
Mm-hmm.
Ouais. Ben voilà, chers auditeurs. Là-dessus, ben nous, après la pause, on s'en va en mode entrepreneurial avec notre entrepreneur de la semaine, M. Samuel Labbé, qu'on va avoir via StreamYard. Puis à vrai dire, ben après chaque heure, ben je veux tout le temps vous... Hein? Que vous entrez un peu dans mon univers musical. Donc, avant d'aller à la pause, on va aller vers une nouvelle chanson. Donc, c'est un extrait du Ben de Libertines qui revient avec un nouvel extrait. La chanson est très accrocheuse. C'est de la pop britannique à son meilleur. Donc, la chanson, c'est Run, Run, Run. Et restez là parce que vous écoutez les Technopreneurs.
A lifelong project of a life on the lash. I've forgotten how to care, but I'll remember for cash. It's my party, and I'll cry if I want to. Light the views, sing the blues, I can die if I want to. Tonight we're gonna bring tomorrow's happiness. Gonna live like it's the end. I love you to death, but I must suggest you
times I've handed a fan. Still knows the streaks of candlelight like the back of his hand. He's a long time lover and a marathon man. And with the strength of a thousand men, he's a nightmare hangover, he's a one night stand. He could eat more chicken than any man in the land. Well, I've given up caring for happiness. When his heart gives out, it's when I rest. Tomorrow's happiness, we don't break before we burn. And tonight, your soul is sad. It'll turn out nice again. It's only
969fm.ca.
Vous écoutez CGMD. Au comptoir et service à l'auto.
La seule station hip-hop au Québec.
CGMD, tu talk avec des opinions
de tous les horizons.
Du rock pesant, du hip-hop. Real.
Chaudière-Appalaches.com.
CGMD 96.9. Téléchargez l'application Google Play et Apple Store.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.